n'a pas un jour repoussé sans cesse le travail pourtant nécessaire au passage d'une étape importante de sa vie. Pas par simple procrastination, mais par peur. La peur d'échouer, la peur de se décevoir soi-même, les autres, la peur de ne pas être à la hauteur. Notre invité est de cela, se présentant à une audition cruciale sans avoir travaillé, pétrifié par le poids de la majesté conférée au grand texte classique qu'il aurait dû déclamer. Et puis un jour, les choses se débloquent et les talents de l'artiste peuvent enfin se déployer. Tout l'été sur France Inter, je vous invite à venir découvrir le parcours de ces combattants, obligés de se battre pour arriver là où ils sont aujourd'hui, là où on ne les attendait pas, redoublant d'efforts au prix parfois de sacrifices. Je vous invite à mettre la lumière sur ces compagnons de galère qui ressemblent à tant de millions d'autres. Les batailles menées, les obstacles franchis, les discriminations parfois aussi, dans une France qui a bien du mal à faire respecter l'égalité, mais où ils ont enfin trouvé leur place. Des parcours de combattants qui éclairent la France d'aujourd'hui, la France de demain.
France Inter. Nassira El Mouadem. Parcours de combattants.
Bonjour Antoine Cobi.
Bonjour Nassira.
Ça démarre déjà par un sourire, voire même des rires.
Votre introduction m'a fait rire.
En tout cas, ravi que vous ayez accepté mon invitation pour décortiquer avec moi votre parcours de combattant. Votre bataille à vous, c'est celle qui vous a mené à devenir comédien.
C'est ça.
Élève aujourd'hui à 25 ans du très sérieux et très chic Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique, promotion 2022, et vous avez déjà quelques expériences en compteur. Vous avez notamment joué dans quelques pièces, des courts et des moyens métrages aussi, et parmi eux un court de 2020 intitulé Une dernière chance, signé Joël Nseosolo. Vous y campez le rôle d'un passant qui fait la connaissance d'un héros.
Excuse-moi, t'es celui qui a sauvé la jeune fille?
Oui, c'est moi.
T'es médecin?
Non, pas du tout, ma petite sœur a déjà fait ce genre de crise, du coup j'ai appris sur le tas.
Ah ouais, putain, faut des mecs comme toi partout. T'as pas peur, t'agis direct. C'est cool ça.
C'est pas grand chose. Hein.
En plus, tu fais semblant. Tu crois que je t'ai pas vu avec le SDF tout à l'heure?
Ah, tu m'as vu avec lui aussi?
Bien sûr que si, je t'ai vu.
Si, il m'a parlé de Dieu carrément.
T'as parlé de Dieu?
Ouais, de Dieu.
Ah ouais?
Ouais.
T'as dit quoi sur Dieu?
Il m'a dit si je croyais en lui, au destin, si j'étais un homme bien ou pas bien du tout. Et moi, Dieu, j'ai l'impression qu'il a jamais rien fait pour moi.
Qui a sauvé la petite fille?
C'est moi.
C'est toi? C'est pas Dieu?
Voilà, je vous trouve d'une justesse remarquable dans ce rôle.
Merci.
Vraiment. Alors vous qui avez grandi dans un quartier populaire en Seine-Saint-Denis, est-ce que cela vous fait toujours quelque chose de vous dire que vous faites partie de cette famille-là aujourd'hui, celle de la comédie, de la dramaturgie, du jeu? Ou alors finalement, vous vous y êtes un peu habitué?
Non, je m'y suis pas habitué. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose, naturellement, dans ma cité, puisque je suis originaire d'une cité dans le 93, à Pierrefitte-sur-Seine.
La cité Paul Langevin.
C'est ça, c'est exactement ça. On a toujours été dans la blague ensemble, dans des petites mises en scène, en fait, sans avoir une idée d'un théâtre ou d'un cinéma. Enfin, on s'est toujours fait des blagues, on s'est toujours assis, et il y avait le copain qui se mettait devant et qui faisait des blagues. Il y a toujours eu ce truc-là. Même ce truc-là de raconter des histoires, des choses qui sont déjà arrivées, etc., etc. Il y a toujours eu ce truc-là, donc je le vois plus comme une sorte de continuité. Mmh. Mais c'est vrai que moi, personnellement, je me dis pas appartenir maintenant à cette famille-là. J'ai l'impression que, d'une manière ou d'une autre, j'y étais déjà.
Justement, parlons-en de votre enfance en Seine-Saint-Denis. Vous avez donc passé toute votre enfance dans cette cité HLM Paul Langevin de Pierrefitte-sur-Seine. C'est situé au nord du département, à la limite avec le Val-d'Oise. Votre maman y réside toujours, d'ailleurs. À quoi elle a ressemblé votre enfance dans cette cité HLM de Pierrefitte-sur-Seine?
Ça a été une enfance très heureuse et en même temps, avec le recul que j'ai aujourd'hui, je me rends compte que elle aurait pu être plus heureuse dans le sens où il y a plein de choses que j'ai découvertes très tard.
Mmh.
Et j'aurais aimé connaître bien plus tôt les sorties au musée, les expositions, les livres, le théâtre aussi. Le théâtre, surtout le théâtre, puisque maintenant...
c'est ce que vous faites.
C'est ce que je fais.
Et la vie dans la cité?
La vie dans la cité, bon, c'était incroyable. Ah, c'était incroyable, c'était un régal. On jouait tout le temps au foot ou
jusqu'à pas d'heure, j'imagine.
Jusqu'à pas d'heure, non mais vraiment. Surtout pendant l'été, Vraiment, on pouvait sortir dehors à 14h et rentrer chez nous à 23h. Et on avait toujours nos mamans qui étaient à la fenêtre, qui nous regardaient et tout et tout. Puis quand, je sais pas, elle sentait toujours à un moment donné qu'on pouvait devenir desséché à cause du soleil. Elle dit, tiens Antoine, Pierre, Simon, qui sont mes frères, venez à la maison, venez boire un coup et tout et tout. C'était magique.
Est-ce que vous vous reconnaissez dans le traitement médiatique qui est fait aujourd'hui des quartiers populaires?
Pas du tout.
Que ce soit à la radio, que ce soit à la télé. Quand vous voyez par exemple un reportage qui est fait sur Pierrefitte ou sur une autre ville de Seine-Saint-Denis, est-ce que vous vous dites, tiens, ça, ça me parle?
Pas du tout, non. Et c'est triste. C'est triste parce que j'ai pratiquement tous mes amis d'enfance qui sont encore à Pierrefitte.
Alors que vous, désormais, vous habitez à Paris?
Désormais, j'habite à Paris dans le 20e. J'ai ma mère qui est encore à Pierrefitte. Moi, tous les souvenirs qui sont rattachés à cette ville, c'est que du bonheur. Enfin, c'est vraiment, je vois le soleil, là, j'ai des images qui viennent et c'est le soleil, c'est les enfants qui rigolent entre eux, c'est le métissage culturel, c'est on aide les mamans à porter les courses. Enfin, c'est que des choses qui rassemblent.
Et ça, vous le retrouvez pas?
Et ça, je le retrouve pas dans beaucoup de reportages que malheureusement ont accès beaucoup de personnes qui n'habitent pas en cité. Et du coup, on leur vend un message, on leur renvoie un message qui n'est pas juste. Et ça crée des personnes qui ont des peurs qui se développent. Et je pense que ça aide malheureusement la xénophobie.
Il vous rappelle quelqu'un, c'est pas?
C'est incroyable.
C'est pas feutré là, comme ça?
C'est incroyable, je sais pas comment vous avez fait pour les avoir, mais ouais, ça me rappelle les pas de ma mère.
Où ça?
Dans ma maison, à Pierrefitte.
Ce sont ceux de votre maman, celle qui vous a élevé seule à partir de vos 8 ans avec vos 4 autres frères et sœurs.
C'est ça.
Après qu'elle s'est séparée de votre père. À cette époque, elle vous dit une chose, votre mère, je la cite, « Vous ne mangerez plus à la cantine, mais à la maison désormais. » C'est le début de quoi, cette période, pour vous?
C'est les débuts de manger à la maison le midi. Et puis, c'est les débuts aussi d'une plus grande difficulté financière qui arrive, qui, bien sûr, ne va pas nous aider et qui, en même temps, va nous faire grandir.
Est-ce qu'elle pèse quand même sur l'enfant de 8 ans que vous êtes et sur l'adolescent que vous allez être ensuite?
Bien sûr. Elle pèse parce qu'elle est compliquée. Même à 8 ans, quand j'entends les paroles de ma mère, je me rends compte qu'il y a un problème et que le problème... n'est pas ponctuel, qu'il va durer sur le temps. Et on n'a pas eu le choix, en fait. On a dû faire avec les difficultés que ça a entraîné. Mmh. Hein, forcément, un divorce, une personne qui part. En plus, mon père, c'était la personne qui travaillait à cette époque parce que ma mère avait décidé de s'occuper de nous.
Vous avez une dizaine d'années, Antoine Cobby. Vous êtes avec votre grande sœur dans le bus. Vous revenez de Stain, une petite ville voisine de Pierrefitte-sur-Seine. Et dans vos bras, quelques colis alimentaires récupérés au Resto du Cœur, quand soudain, vous croisez un camarade de classe. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là?
Je suis effrayé. Parce que je me dis...
Qu'est-ce que je vais bien vouloir lui raconter?
Qu'est-ce que je vais pouvoir lui raconter? En sachant que ce camarade de classe, il habitait dans cette cité, la cité du Clos Saint-Lazare, à Stain, où il y avait un stand des Restos du Cœur. Et je pense que tout le monde le savait, qu'il y avait un stand des Restos du Cœur. Moi, j'habitais pas au Clos, j'habitais juste à côté, mais je n'y habitais pas. Du coup, quand il me croise, je me dis... Waouh, là c'est relou. Va falloir inventer un mytho très vite pour que ils comprennent pas pourquoi je suis là, en sachant que j'avais des sacs cabas et les sacs cabas, bah voilà, il y avait la nourriture directement dedans et ça ressemblait pas forcément à les courses
dans
à Carrefour.
Dans une enseigne.
Voilà. Du coup, il s'approche de moi, il me dit bonjour, il me dit mais tu fais quoi ici? Je lui dis non, mais je suis parti voir ma tante, voilà, elle habite au Clos. Ah bon, t'as une tante qui habite au Clos? Je fais oui, j'ai une tante qui habite au Clos. Du coup, je suis parti la visiter. Et...
C'est un des moments où vous avez le plus ressenti cette honte?
Non. Le moment où je l'ai plus ressenti, c'est quelques années plus tard, où vraiment... malheureusement, il y avait rien à manger chez moi. Il y avait vraiment rien. Et ma mère s'est décidée d'aller vendre ses derniers bijoux. Et je me rappelle que on l'avait accompagnée, mon frère et moi. Pourtant, j'étais jeune. Je savais une chose, c'était qu'il y avait pas à manger. Et quand je dis pas à manger, enfin, c'est pas à manger, quoi.
Oui.
C'est pas des pâtes et des saucisses. Non, c'est pas à manger. Et je savais qu'il fallait qu'on sorte avec notre mère parce qu'on devait l'accompagner. je comprenais pas tout, mais quand je l'ai vu se rapprocher de ce guichet et donner ses bijoux, je me suis dit, ah ouais, là en fait il se passe un truc assez triste qui devrait m'attrister. Enfin, après cela, on s'est retrouvé dans une enseigne pour faire des courses et on est rentré. Et nous, sur le chemin, avec mon frère, on mangeait, on était contents. Et on est rentré et on a apporté justement ces courses-là à mes frères et sœurs. Et en fait, on était tous contents après.
Avec le sentiment, j'imagine, de se dire qu'on lui doit sacrément quelque chose à cette maman.
Mais ma mère, enfin, je lui dois tout. Enfin, ma mère et mon père, d'ailleurs. Parce que même ne serait-ce que l'exemple de combativité qu'elle est par rapport à justement la voie dans laquelle je suis, cette détermination-là, vouloir être toujours positif malgré tout ce qui arrive, malgré les désillusions. Elle a toujours su, d'une manière ou d'une autre, mener sa barque avec 5 enfants derrière.
Ouais. Est-ce qu'à l'époque, vous aviez conscience d'être un enfant pauvre ou est-ce que c'est quelque chose dont on vous rendait compte après ? Une fois que vous êtes plus grand.
Alors à l'époque, j'en avais conscience. Ce qui est marrant parce que j'étais entouré d'enfants pauvres. C'est-à-dire que
c'était la normalité. Quoi.
C'était la normalité. Mais c'est encore plus marrant parce que j'en avais conscience. C'est-à-dire que d'une certaine manière, je faisais vraiment partie des pauvres des pauvres.
Par quel chemin avez-vous fini par intégrer le très prestigieux Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris et quel rôle a eu l'école dans tout cela? Rendez-vous dans quelques instants pour y répondre, après ceci.
Tandis que je frappe le sol, je frappe le ciel de ma voix.
C'était le titre Tassousmi de Yeli Yeli.
Nassira El Mouadem. Parcours de combattant sur France Inter.
Nous sommes toujours en compagnie d'Antoine Cobby, comédien. J'en profite pour remercier Valentine Chedebois pour la programmation musicale, Mao de Butler de m'avoir aidé à préparer cette émission, Fanny Cohen-Moreau qui la réalise, et à la technique Kevin Pelot. Tassousmi, cela veut dire silence en kabyle, et Yeli Yeli, donc le pseudo de la chanteuse, signifie jeune fille. La chanteuse, c'est Émilie Anac, que je salue chaleureusement car nous nous suivons sur les réseaux sociaux. Émilie Anac a grandi à Créteil dans le Val-de-Marne. Elle est d'origine kabyle algérienne par sa mère et c'est par la musique qu'elle explore cette autre identité-là. Vous, vos parents ont immigré en France d'une autre partie de l'Afrique, plus au sud, du Congo. Comment à la maison, vous gardiez les liens avec le pays d'origine de vos parents ?
Par la musique, parce que ma mère écoutait beaucoup de rumba congolaise. Du coup, souvent par la musique et aussi par les oncles et les tantes qui venaient à la maison. Aussi par les plats. Ma mère faisait le dimanche, ça c'est un gros souvenir.
Quel plat traditionnel elle vous cuisinait votre maman le dimanche?
Souvent c'était la semoule et le fumbo avec des côtes d'échine.
Et vous y alliez quand vous étiez petit au Congo?
Non, malheureusement je n'ai pas encore eu la chance d'y aller, ça ne saurait tarder.
Un projet dans les prochaines années.
Exactement.
Qu'est-ce que signifiait l'école pour vos parents?
Ah La réussite, sortir de cette belle misère, parce qu'elle était belle quand même, mais sortir de cette belle misère. Mmh. La réussite vis-à-vis des autres aussi, montrer que moi je n'ai pas pu, pour plusieurs raisons, faire des études sur le long terme, mais regardez, mes enfants, eux, ils peuvent. Je me vois, et je pense que c'est aussi le cas pour mes frères et sœurs, on se voit comme une sorte de prolongement de mon père et de ma mère.
Mmh. Et parce qu'ils avaient aussi des aspirations auxquelles eux-mêmes n'ont pas pu répondre, et si oui, lesquelles?
C'est ça. Ma mère, elle voulait devenir juge d'instruction. Et mon père, il voulait devenir journaliste, comme vous. Et du coup, je me raconte un peu que le théâtre ou le cinéma, en tout cas l'art de l'acteur, c'est-à-dire avec ma voix, d'une manière ou d'une autre, parce que c'était quand même des métiers de voix, enfin le fait d'être journaliste, enfin de se poser des questions, d'interroger des faits, d'interroger la société. J'ai l'impression que c'est aussi ce que je fais.
Et pour vous, l'école, c'était quoi?
C'était un grand terrain de jeu où je pouvais voir mes potes. C'était ça l'école,
un grand. La bulle d'air.
Exactement.
C'est ça.
Ouais, ouais. J'étais pas l'un des plus déterminés le matin pour aller à l'école, mais quand j'y étais. Surtout pendant la récréation, d'ailleurs. J'étais très content parce que...
Parce que vous lâchiez prise un
parce
peu.
Que je ouais, exactement. Avec les copains, on faisait des blagues. Enfin, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, quoi.
Finalement, vous arrivez au lycée. Vous intégrez précisément la filière économique et sociale.
C'est ça.
Vous êtes d'ailleurs un des seuls de votre quartier à entrer en lycée général. Est-ce que vous compreniez à ce moment-là que vous êtes une exception? Est-ce que vous vous disiez, est-ce qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, là?
Clairement. Parce que c'est quand même fou, quoi, que... Dans ma cité, à mon époque, j'étais le seul à continuer une filière générale. Pourquoi, je ne sais pas, parce que je sais pertinemment que on a les mêmes compétences, enfin on a appris les mêmes choses. Sauf qu'il y a un moment donné, c'est ce que je me raconte en tout cas, où j'ai eu la chance d'éviter d'une manière ou d'une autre certains discours. Notamment ceux de peut-être qu'en filière générale tu trouveras pas forcément un emploi, tu devrais te réorienter dans une filière professionnelle où là t'auras beaucoup plus de chances de trouver un emploi et tu vois tu toucheras de l'argent plus vite.
Ouais.
C'est intéressant l'argent.
Moi je l'ai vécu aussi ça. Donc moi j'ai grandi à Romorantin-Lanthenay dans le Loir-et-Cher. Le fils de la meilleure amie de ma mère qui n'aimait pas beaucoup l'école, certains autres camarades qui étaient avec moi jusqu'au collège et arrivé en seconde. On se compte sur les doigts d'une main les enfants issus de l'immigration, comme on dit. Et on se dit, mais où est-ce qu'ils sont? Et en fait, ils sont dans le lycée technologique, lycée professionnel, pardon, juste à côté. Et on se dit, mais effectivement, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Et alors, moi, je sais pas comment vous l'avez vécu, mais j'aimerais bien que vous me répondiez là-dessus. Mais est-ce que vous culpabilisiez à l'époque? Est-ce que vous vous disiez, mais pourquoi moi et pas eux?
Culpabiliser, non. Je pense que je l'ai plus pris comme une sorte de défi. Dans le sens où, bon, moi j'ai l'impression que les défis, ça aide toujours à avancer. Donc c'est pour ça que je pense que à ce moment-là, je l'ai vu par ce prisme-là. Mais je me suis dit, bah, puisque je suis l'un des seuls de ma génération dans ma cité à être en filière générale, je vais tout faire pour réussir.
Oui. Parce que vous représentiez quelque part un
exactement.
Peu les copains qui n'avaient pas pu le faire.
Ouais. Je vais tout faire pour réussir, pour bien réussir d'ailleurs, pour marquer cette réussite d'une manière ou d'une autre, et pour que les copains, et même les enfants des copains, et même les plus jeunes d'ailleurs, parce que moi j'ai une petite sœur, on a quand même 7 ans d'écart, Elle a eu son bac, elle a la fac, donc je suis très content de cela. Mais voilà, montrer un exemple aussi aux plus jeunes que on peut le faire en fait.
Que c'est possible aussi pour eux.
Il y a aucun problème.
Vous entrez à la fac, vous faites des études de sport, mais très vite vous vous rendez compte que c'est pas fait pour vous. Et votre rêve d'enfant se rappelle à vous, celui de faire du théâtre, de jouer. Vous disiez tout à l'heure que c'est lié aussi beaucoup à la vie que vous aviez avec vos potes dans le quartier. Est-ce que c'est aussi lié aussi à votre maman, à vos parents? Est-ce que eux aussi vous ont transmis ce goût pour le jeu?
Ouais, bah c'est marrant parce que d'une manière différente. Mon père était un excellent acteur, mais je pense qu'il s'en rendait pas compte. C'est-à-dire que des fois, il pouvait, parce que voilà, mes parents ont divorcé et puis mon père est parti en Belgique et puis j'ai eu un père aimant qui revenait souvent nous voir.
Oui.
Et du coup, pour pas nous froisser sur sa nouvelle vie, le fait que justement il ait une nouvelle épouse avec de nouveaux enfants, bah il nous racontait des histoires, voilà, c'était des histoires à dormir debout. Donc nous on était au courant avec mes frères et sœurs et puis on l'écoutait comme ça et on se disait quand même papa, il est très fort. Il est très très fort. Au sujet de ma mère, je lui trouve une très belle éloquence dans sa manière de parler et puis elle a surtout ce don et je pense que malheureusement elle ne le sait pas assez en tout cas. Elle a surtout ce don de raconter des histoires.
Et quelles histoires elle vous racontait quand vous étiez enfant?
Bah surtout les histoires de sa vie, quoi. Les histoires de son enfance, de comment elle arrive en France, de comment ça s'est passé pour elle, comment elle a dû justement se battre pour arriver jusqu'à là, enfin nous raconter ces histoires-là.
Et puis vous multipliez les expériences, d'abord de la figuration en 2015 dans le film comédie de Kéron, Nous trois ou rien, avec Leïla Bekhti qui raconte l'histoire de ses propres parents, immigrés iraniens exilés en France pour se construire un avenir meilleur. Vous connaissez. Et Kéron, qui est d'ailleurs originaire de Pierrefitte-sur-Seine, comme vous, et qui a d'ailleurs été un de vos animateurs, n'est-ce pas?
C'est exactement ça.
Et vous rencontrez également, quelques temps plus tard, Abraham Touré, comédien, cinéaste et prof de théâtre, qui vous prend comme assistant pour son court-métrage, et vous y rencontrez une jeune fille, inscrite au conservatoire d'arrondissement Mozart dans le centre de Paris, et elle vous en parle, vous assistez au cours en auditeur libre, et puis vient le moment où vous devez préparer l'audition pour intégrer le conservatoire, mais vous n'y allez pas. Qu'est-ce qui se passe?
C'était pas de la paresse, c'était de la peur en fait, la peur de l'échec. Mais à ce moment précis, moi je m'en rendais pas compte. Et du coup je culpabilisais parce que je me disais, mais attends Antoine, t'as choisi cette voie, il te faut une école pour l'année prochaine. Allez, on apprend ce texte, on le fait et tout, et ça va passer. Et même si ça passe pas, c'est pas grave. Mais en tout cas, on le fait, on se donne toutes les chances pour y arriver. Sauf que c'est les actes manqués. Il y a vraiment plein de choses qui arrivent dans cette fameuse journée d'avant cette audition qui font que j'arrive, moi, pour le coup, à me raconter une histoire, à me dire, ouais, mais en fait, il y a trop de choses qui se passent là. Tu peux pas apprendre dans de bonnes conditions, c'est impossible, Antoine. Et du coup, je n'y vais pas. Je reçois le jour d'après un message du professeur qui tenait la classe, qui me demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et je lui réponds, ah oui, j'ai eu un souci. Enfin, ce qui est vrai, mais ce qui n'empêchait pas forcément de ne pas y aller. Et que du coup, bah, je suis désolé. Et il me dit, non, mais c'est pas grave, venez vendredi. Et puis voilà.
Et vous y retournez. Et là, il vous pose une question. Antoine, est-ce que vous avez vraiment envie de faire ce métier? Et vous lui répondez oui. Et quelques jours plus tard, vous êtes admis à ce conservatoire d'arrondissement à Paris. Et là, c'est le décalage abyssal.
Clairement.
Avec votre enfance, avec votre vie au quotidien. Vous vous retrouvez avec des gens qui n'ont pas la même vie que vous.
C'est vraiment un décalage. Je me retrouve avec des gens de mon âge très différents.
Comment différent?
Déjà, rien que les codes vestimentaires. On s'habille pas de la même manière, on n'a pas les mêmes codes aussi. Pour se dire bonjour, par exemple, moi la bise, enfin, chez moi, on fait pas la bise, on se serre la main, ou on se check.
On se check.
Rien que la bise, fallait que j'apprenne à faire la bise d'une certaine manière. Moi, je comprenais bien que quand j'essayais, d'ailleurs ça c'est toujours drôle, mais quand j'essayais justement de checker l'ami qui était en face de moi, qui était avec moi dans ce conservatoire, il y avait toujours quelque chose qui n'était pas fluide parce que c'était pas forcément leur habitude à eux. Donc j'ai très vite compris que si tu veux que ça se passe bien avec ces personnes-là, va falloir changer quoi. Va falloir apprendre vite et changer parce que tu veux faire ce métier.
Et il y a le décalage aussi avec les professeurs, avec certains qui peuvent se permettre certains mots, certains préjugés, notamment sur votre accent de banlieue.
Voilà, ouais. Il y a eu un épisode qui m'a marqué. D'ailleurs, c'est marrant parce que encore aujourd'hui, j'ai toujours ce truc où je me dis ah, j'ai pas su réagir.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
On travaillait sur Bérénice de Jean Racine. La scène était pas mal, mais voilà, le travail avait déjà avancé. Fallait faire mieux, ce qui est normal. Il nous propose quelque chose, de faire un exercice. Je crois que ça marche pas. Et moi, du coup, vu que voilà, forcément, je suis devant des gens que, enfin, de mon chef, je me sens pas forcément inclus dans le groupe. Mmh. Donc forcément, aller sur le plateau, c'est une pression de plus. On fait un exercice qui ne marche pas. Du coup, la pression monte un peu plus. Et j'ai peut-être moi un mot. Enfin, je dois dire une phrase. Mais pour moi, il reprend la phrase en me caricaturant. Et du coup, il y a vraiment certaines personnes qui rigolent et d'autres qui ne rigolent pas. Du coup, déjà, je me sens soutenu par les personnes qui ne rigolent pas. Et surtout, j'ai ma tête qui se tourne vers lui. Et je me dis, mais attends, mais il vient de me singer, là. Fin. Et tout de suite, il passe à autre chose. D'une manière à ce que je ne m'attarde pas sur cet événement-là. Ça a été l'une des gouttes qui a fait que plus tard, j'ai quitté ce conservatoire d'arrondissement.
Dans ce conservatoire parisien, les débuts sont compliqués. Vous avez du mal à trouver vos marques, vous perdez confiance en vous. Vous avez aussi lâché la fac. Vous ne touchez plus de bourse financièrement. Cela devient compliqué aussi. Et puis, vous n'avez pas annoncé à votre mère que vous avez abandonné la fac de peur de la décevoir. Comment avez-vous réussi à reprendre le chemin du théâtre pour de bon cette fois ? Réponse après ce titre que vous avez choisi, Antoine Cobby.
They silly as shit. I don't know why they be guessing these suckers, but fuck them, cause I am not feeling they shit. Different between me and most of these rappers, I'm talking about work that I really put in. Talking about pistols I put on my hip, and I'm talking about foreigns I really could whip that I really didn't drove. Really was frozen in my hood, and these bitches I really did hit. Really was shows. Came up from nothing, and now they like I ain't made millions so quick. I'm in the back, and they feel like a sofa. I done seen bitches I'm fucking on no. In my new mansion, I feel like I'm Sosa. A brick on the table, ain't sniffing no coke in no way. All I wanted was a new Mercedes. Bending on the corner, whipping up the lot, I got it. Women love me, but the niggas hate it. But how can I lose when I came from the bottom? Lord knows.
C'était Lord Knows de Mick Mill avec Tory Lanez.
France Inter, parcours de combattants. Nassira El Moadem.
Cette chanson est issue de la bande originale du film Creed, l'héritage de Rocky Balboa, sorti en 2015. Un dérivé de la série Rocky qui raconte lui aussi l'histoire d'un autre génie de la boxe. Elle est synonyme de quoi cette chanson pour vous, Antoine Cobby?
Non, elle est synonyme de plein de choses, notamment la détermination, le fait de se battre pour ce qu'on veut, aussi de tiraillement. Ce héros, dans ce film-là, il est tiraillé par les combats intérieurs, les combats à l'extérieur et les combats sur le ring de boxe. Et ça me parle, moi, ce film m'avait touché profondément.
Enfin, il y a une phrase très forte aussi dans le texte des paroles. Il y a cette phrase précisément, « How can I lose when I came from the bottom ?» Comment pourrais-je perdre alors que je viens d'en bas? En fait, on n'a rien à perdre à tout donner, c'est ça que ça veut dire.
C'est exactement ça. Bah moi, c'est cette phrase qui me touche le plus, je crois. J'ai rien à perdre. Enfin, c'est un peu grandiloquent de le dire ça comme ça. Mais c'est vrai, en fait, c'est une réalité, j'ai rien à perdre.
Et justement, vous n'avez rien lâché. Vous entrez à l'association 1000 Visages, créée par la réalisatrice Ouda Benyamina, et qui a pour but de démocratiser l'accès au métier du cinéma. Vous apprenez par l'association que la Maison de la Culture du 93 à Bobigny recrute pour sa classe prépa au concours des grandes écoles d'art dramatique. Vous candidatez, vous êtes accepté, et là, contrairement au conservatoire d'arrondissement, eh bien, vous vous épanouissez. Mais vous et vos camarades de promo, vous refusez de parler de prépa égalité des chances. Pourtant, c'est l'intitulé même de la prépa. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous gêne dans ces mots?
Parce que tout de suite, quand on entend prépa égalité des chances, on entend des miséreux. Tout de suite, on a cette connotation-là. Or que non, c'est des gens qui ont fait une audition avec plein de personnes d'horizons multiples, faut le savoir ça, des gens qui ont de l'argent, même des fils d'eux. Non, on a fait une audition avec toutes ces personnes-là. Voilà, on a été 12 à être pris dans cette classe-là. Et c'est pour ça que le titre, politiquement, ça doit arranger ce titre-là, parce que forcément, et puis c'est une aide aussi, enfin voilà,
financièrement parlant.
Voilà, aucunement je décris ça, c'est juste que vraiment nous on s'est attachés à chaque instant à dire que non, on n'est pas une prépa égalité des chances, on est une prépa aux grandes écoles nationales de théâtre.
Et pendant toute cette année, il y a une prof qui va énormément compter pour vous, c'est la comédienne Valentina Fagot. Nous l'avons contactée et elle vous a laissé un message vocal. Écoutez.
Antoine, je suis assise à mon bureau devant mes carnets. Pour toi, en vrac. La vérité, vaut bien qu'on passe quelques années à la chercher. Antonin Artaud. Le théâtre, c'est rendre visible, révéler l'invisible, l'inéluctable. Sarah Kane. Je transmets ce que je cherche, Gilles Deleuze. Et moi, je rajoute transmettre, c'est-à-dire ne donner aucune leçon, mais naviguer ensemble à l'écoute de ce que Valérie Dréville appelle le monologue intérieur du désir. Dans un engagement inéluctable, puisque l'engagement de l'artiste est inéluctable, dans cette sorte de traversée du désert qu'est la quête. Ce voyage, l'acteur est un nomade, comme le dit Tadeusz Kantor. Je te souhaite toujours de désirer, puisque désirer, c'est découvrir ce qui nous manque et partir à sa recherche.
Voilà le message de votre prof. En quoi elle vous a marqué?
En tout. Et je pense que c'est pas démago de le dire, elle m'a marqué en tout. Enfin, déjà, rien qu'avec sa pédagogie, son approche de la pédagogie. À aucun moment, elle nous a traités comme des élèves. Elle nous a traités de manière égale, enfin, et tous, vraiment tous. Et on a cherché, en fait, pendant un an. On a cherché, comme dans un laboratoire, que ce soit des textes de concours, mais d'une manière à ce que on puisse, nous, se découvrir à l'intérieur de ces textes.
Après cette année de prépa à la Maison de la Culture du 93 à Bobigny, vous finissez par passer les auditions pour intégrer les fameuses grandes écoles d'art dramatique. Et là, plus de blocage, vous assumez tout, vous vous débarrassez un peu de vos complexes et de vos appréhensions, notamment sur les textes classiques. Vous présentez Ruy Blas, la scène du balcon de Roméo et Juliette, pardonnez, Contrôle d'identité d'Alexandra Badea et en parcours libre, un playback de Maître Gims. Et cette fois-ci, ça marche. Vous intégrez donc en 2019 le prestigieux Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique. Finalement, vous vous retrouvez avec des gens qui ressemblent en fait avec ceux du premier conservatoire où vous avez été élève. C'est quoi la différence entre les deux expériences pour vous?
La différence, elle se situe déjà vis-à-vis de mon expérience d'élève sur Paris, de rencontrer des gens de tous les horizons, de tous niveaux. Donc déjà, j'avais moins cette appréhension-là.
Vous étiez déjà rodé.
J'étais déjà rodé, c'est exactement ça. Et faut savoir, ce qui est assez marrant, que dans ma promo au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique, qu'il y a beaucoup plus de diversité. Parce que voilà, au Conservatoire d'arrondissement du centre, j'étais la seule personne de couleur. Enfin, j'étais le seul noir. J'étais le seul banlieusard. Donc vraiment, il y avait, j'étais le seul quoi.
Ouais.
Or qu'au Conservatoire, non.
Et ça change tout.
Bah bien sûr, ça change tout véritablement. Et en plus, c'est nourrissant. Enfin, rien que le fait d'être avec des personnes de tous les horizons, forcément, ça change quelque chose. Donc oui, ça change tout.
Après tout ce parcours, est-ce que vous diriez aujourd'hui que désormais, vous vous sentez à la fois complètement à l'aise et complètement à votre place de comédien?
Non. Non, 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 faut pas se leurrer. J'apprends tous les jours de ce métier d'être comédien. J'apprends les rouages du métier. J'apprends que justement ce métier, bah, c'est pas seulement sur scène. C'est les relations. C'est comment justement on se crée un réseau.
Et ça, vous avez du mal?
Et ça, j'apprends de plus en plus. J'apprends à le faire parce que y a plein de codes.
Ouais.
Et si on sait pas ces codes, c'est impossible.
Et ça s'apprend pas à l'école.
Et ça s'apprend pas à l'école. Faut le vivre. Mmh. Malheureusement, je le vis de manière pas toujours heureuse. C'est-à-dire que j'apprends après coup. Parce que forcément, quand on les a pas sur le moment, ben on se rend compte après. Mais en tout cas, je les apprends. Donc c'est déjà ça, je pense.
Pour préparer cette émission, je vous ai demandé, comme à mes autres invités, de réfléchir à un moment historique, récent ou ancien, qui a compté pour vous dans votre construction personnelle. Et spontanément, vous nous avez parlé d'Adama Traoré, ce jeune homme mort dans les mains des gendarmes de Persan, dans le Val-d'Oise, en juillet 2016.
Un jeune homme de 24 ans est décédé hier après-midi après avoir été arrêté par les gendarmes. Des échauffourées ont éclaté la nuit passée dans le Val-d'Oise. Deux enquêtes ont été ouvertes pour faire la lumière sur ce décès.
Deux policiers en civil qui l'ont interpellé. Il était avec un t-shirt tout blanc. Il est revenu avec un t-shirt tout rouge. Tout rouge, c'était le sang à mon frère. Par la suite, ils l'ont embarqué, ils l'ont ramené à la gendarmerie. Et à la gendarmerie, apparemment, ils ont dit qu'il simulait un arrêt cardiaque.
Depuis 2016, l'enquête piétine. La famille et notamment la sœur d'Adama Traoré, Assa Traoré, se bat pour obtenir justice. En juillet 2020, plus de 20 000 personnes, beaucoup d'adolescents et de jeunes adultes, se rassemblent devant le tribunal judiciaire de Paris pour réclamer la justice, justement. Et vous y étiez. Qu'est-ce que cette histoire, Antoine Cobby, selon vous, raconte de la France d'aujourd'hui?
Elle raconte quelque chose de dramatique sur comment sont traités des Français d'une manière très différente de d'autres Français. Et ça fait peur, parce que malheureusement, il y a certaines personnes qui ont peur de la police et d'autres personnes qui ont moins peur de la police.
Est-ce que vous avez peur de la police?
Oui. Oui. Oui, j'ai une peur de la police. C'est pas comme ça que je me le raconte, mais en fait, je me rends compte que si je suis franc avec moi, c'est une peur de la police. Parce que quand je les vois, je suis pas rassuré.
Il vous est déjà arrivé quelque chose?
Oui, et je suis pas le seul à qui quelque chose est déjà arrivé.
Par exemple?
Une fois, j'étais vraiment dans la rue avec un de mes frères et un pote à moi. Et il y a trois policiers qui sont en vadrouille, enfin je sais pas, en tout cas ils sont à pied. Et à un moment donné, il y a un policier qui se retourne et qui braque son flashball vers moi. Moi je comprends pas, je me dis mais attends, il se passe quoi là? Il y a un policier qui se retourne, qui me braque. Et il me regarde. Je le regarde, en sachant que, enfin, on s'était jamais vu. Je marchais dans la rue. Il marchait avec ses collègues.
Et il se passait rien.
Il se passait rien. Il y avait du soleil. Tout le monde était content. Le policier me braque. Mais d'une manière un peu mesquine. Genre, j'ai tous les droits.
Et vous allez le voir?
Je vais pas le voir, maintenant. Je vais pas gagner contre un policier. On gagne rarement contre la police. Malheureusement, on le voit, hein, avec cette affaire. Mais non, je reste figé à un moment donné parce que je me dis peut-être qu'en fait j'ai pas compris, je suis encore dans un rêve. Et après je pars. Et ça m'a marqué puisque je vous le raconte aujourd'hui.
Tout à l'heure vous disiez c'est la peur de la police. Est-ce que c'est aussi la colère
Ah oui, non mais voilà. C'est clairement une grosse colère contre la machine qui est la police. Parce que bien évidemment, et ça tout le monde le sait, tous les policiers ne sont pas comme ça. Mais il y a vraiment quelque chose qui gangrène la police d'une manière telle à devenir effrayante. C'est vraiment effrayant.
Et participer à cette manifestation de juin 2020 pour réclamer la justice autour de la mort d'Adama Traoré, c'est une manière aussi de communier, de se retrouver avec d'autres qui partagent ce même sentiment-là, cette même envie de justice, et de ne pas rester uniquement sur de la colère.
C'est exactement ça. On voulait apporter notre soutien à cette cause qui nous touche tous, en venant nombreux. Et c'est vrai que ça a été tellement beau, dans tout ce que ça avait de moche par rapport à cette affaire, mais le fait d'un moment se retrouver ensemble et d'entendre toutes ces voix se lever pour une cause juste et entendre toutes ces personnes dire on ne lâchera rien, on ne lâchera rien, c'était magnifique.
Merci Antoine Kobi d'avoir accepté de s'arrêter avec nous sur les étapes de votre parcours, que je vous souhaite encore le plus long possible. Quant à vous, auditeurs, je vous donne rendez-vous samedi prochain, même heure, pour un nouveau parcours de combattant.
It's dark but just a game, that's what he would say to me. The faces aren't the same, but their stories all end tragically. Sweet, why would ever baby? And that's the price of fame, a deal as old as time. Lost their minds, so I'm not gonna change. I'll stay the same. No rose left on the vines. Don't even want what's mine, much less the fame. It's dark, but just a game. It's dark, but just a game. It's dark but just a game, so play it like a sin.